Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
13h, 14h, Thomas Schnell.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette heure d'information ensemble avec à la une du journal la communauté internationale suspendue à la riposte d'Israël qui prépare sa réplique contre l'Iran tout en essayant de ne pas se mettre à dos ses alliés. Ne dites plus Wambushu, dites Mayotte, place nette, le nom change, l'objectif reste le même. Le gouvernement annonce la deuxième phase de son opération contre l'insécurité et l'immigration illégale sur l'archipel de l'océan Indien. Un chiffre à la une ce matin, 36 millions et demi d'euros. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi, a lancé Carlos Tavares, dont le salaire annoncé fait encore polémique. Les premiers frissons olympiques en Grèce, la flamme des Jeux de Paris a été allumée. Elle entame son périple jusqu'à Marseille avant Paris. L'arrivée sur le Vieux-Port est prévue le 8 mai prochain, on y revient. Après le journal, avec vous, vous nous appelez, on fait l'actualité ensemble au 01 80 20 39 21, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous. 13h01, la météo, Mickaël Poteau.
Eh bien, si vous cherchez le soleil direction la Méditerranée, pour un peu de pluie, il faut habiter dans l'ouest et partout ailleurs, des averses, des orages et des giboulées pour un bon quart est du pays. Et je développe tout ça à la fin de votre journal, Thomas.
Europe 1.
Israël semble bien préparer la riposte.
Représailles à l'attaque sans précédent menée par l'Iran, le chef de l'état-major israélien a été très clair dans son allocution hier. Pourtant, deux camps semblent se faire face au sein des autorités israéliennes. Les partisans de la réponse forte et les modérés. On retrouve à Tel Aviv notre envoyé spécial Wilfried De Villers pour Europe 1. Wilfried, un consensus a donc été trouvé, mais des dissensions sont apparues sur la forme que devrait prendre cette riposte.
Oui, des divisions qui portent sur la forme et la temporalité de cette riposte. Au sein du cabinet de guerre, alliance de circonstances, il faut le rappeler, ce sont en quelque sorte deux camps qui s'opposent. D'un côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. De l'autre, le centriste Benny Gantz. Les premiers pressent pour une riposte immédiate et directe avec un argument principal, qu'avec le temps, cette contre-attaque apparaisse de moins en moins légitime. Il s'agit aussi de l'axe politique du Premier ministre qui a toujours considéré l'Iran comme le principal ennemi d'Israël. S'ils estiment quant à eux qu'une riposte est bien nécessaire, Benny Gantz et ses alliés ne veulent pas précipiter les choses, jouer la montre pour bien préparer la réplique, mais aussi tenter de consolider la coalition internationale qui s'est mise en place lors de l'attaque iranienne de samedi soir, contrée conjointement par Israël et ses alliés occidentaux. Le temps aussi de trouver une issue diplomatique à cette crise.
Réponse ce matin du président iranien Ebrahim Raisi prévient que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait, je cite, une réponse sévère de son pays.
Les tensions entre l'Iran et Israël inquiètent les renseignements français.
Ils craignent une ingérence des services iraniens en France, des services capables de mener des opérations de déstabilisation, Jean-Baptiste Marty.
Des tentatives d'enlèvement déjouées sur le sol français, parfois même des projets d'assassinat d'opposants au régime directement commandés depuis Téhéran. Les cas d'ingérence avérés se multiplient ces derniers mois. La traque très organisée au quotidien des opposants politiques se fait au travers des associations iraniennes contrôlées depuis le Moyen-Orient. Manaz Shirali, sociologue iranienne réfugiée en France.
Téhéran a une influence sur eux et ils savent qu'ils doivent écouter les volontés de ceux qui les financent, de plaire à ceux qui les financent pour avoir la continuation du financement.
Avec entre autres l'obligation de respecter des coutumes islamiques rigoristes.
La femme doit être voilée, la femme doit rester à la maison, la femme ne doit pas participer à des fêtes, à des affaires, à la vie moderne.
Téhéran développe également son emprise en interférant dans les médias avec la création ces dernières semaines de sites antisémites dont celui intitulé France Terre Fatiguée, site signalé par le renseignement. Une activité de plus en plus inquiétante dans le contexte actuel et qui justifie de nouvelles protections policières accordées ces derniers jours à des opposants au régime iranien.
La crise entre Israël et l'Iran divise la classe politique française. Et cette question, la France insoumise peut-elle organiser une conférence jeudi au sein de l'Université de Lille, soutenue par une association pro-palestinienne? Des élus Les Républicains, Rassemblement National et Renaissance fustigent la venue de Jean-Luc Mélenchon en raison du logo sur l'affiche de l'événement sur lequel on peut lire « Libre Palestine » Alexis de la Fontaine.
Oui Thomas, cette association défend le rétablissement des frontières de la Palestine avant 1948, c'est-à-dire l'effacement d'Israël de la carte. Un appel à la haine antisioniste pour Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui souhaite l'interdiction de cette conférence. La députée Renaissance de Lille, Violette Spilbou, accuse même Jean-Luc Mélenchon d'incarner, je cite, « l'antisémitisme le plus violent » et demande l'application du droit.
Est-ce que nos universités publiques doivent se laisser infiltrer par la France insoumise à un moment de campagne électorale européenne où normalement, s'il y a des bas politiques à l'université, il faut que ce soit dans un esprit de pluralisme. Finalement, c'est un meeting électoral déguisé au sein de notre université publique, dans des locaux universitaires, et ce n'est pas leur destination.
De son côté, le président de l'Université de Lille maintient cette conférence au nom du droit associatif et dit ne pas craindre de troubles à l'ordre public. Enfin, la France insoumise se protège derrière la liberté d'expression, une parade qui permet à Jean-Luc Mélenchon de continuer à essayer de s'attirer les voix des banlieues.
De son côté, Emmanuel Macron poursuit les commémorations des 80 ans du débarquement. Il est en déplacement dans le Vercors aujourd'hui. Rendre hommage aux maquisards, et c'est une information qu'Europe 1 vous dévoile ce midi dans le cadre de ces commémorations des 80 ans du débarquement. La Russie sera invitée en Normandie le 6 juin prochain sur les plages du débarquement. La France s'apprête à rendre publique sa décision, Arthur Delaborde.
Selon les informations d'Europe 1, la Russie sera bien représentée début juin en Normandie si toutefois Moscou accepte l'invitation de l'Elysée. Sauf coup de théâtre, le président Vladimir Poutine ne participera pas en personne aux commémorations, mais une délégation russe y sera conviée. L'homme fort du Kremlin était présent au 70e anniversaire du débarquement de Normandie, mais absent il y a 5 ans. Quoi qu'il arrive, un carton d'invitation sera adressé à la représentation diplomatique de Moscou en France. En dépit de la situation géopolitique, difficile en effet de se passer totalement de la présence de la Russie. Bien que l'URSS n'ait pas directement participé au débarquement du 6 juin, elle l'a rendu possible en payant le plus lourd tribut lors de la Seconde Guerre mondiale. Près de 27 millions de soviétiques sont morts pour combattre l'Allemagne.
Le gouvernement lance l'opération Mayotte Place Nette pour lutter contre l'immigration illégale. Un an après la première opération, celle-ci a débuté depuis 7 heures ce matin. On y revient dans un instant.
Thomas Schnell vous informe et vous accompagne aujourd'hui entre 13h et 14h sur Europe 1. Europe 1 13h en direct cette semaine avec Thomas Schnell et votre journal continue, Thomas, avec cette opération à Mayotte qui doit durer près de 3 mois cette fois.
Mayotte, Place Nette, nouvelle phase dans l'opération précédemment nommée Wambushu. L'objectif du gouvernement reste le même, Alexandre Chauveau, lutter contre l'immigration illégale, l'insécurité et le logement insalubre.
Oui, pour faire face à l'insécurité, l'État vise l'interpellation de 60 chefs de bande présentés comme étant des cibles prioritaires. Un coup de filet qui doit s'accompagner d'un renforcement de la lutte contre l'immigration illégale avec le déploiement de moyens aériens, terrestres et maritimes. Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée des Outre-mer.
6 opérations terrestres militaires seront menées avec la mobilisation des militaires et une section de 30 hommes. 2 vedettes côtières de la gendarmerie maritime assureront une permanence en mer. 1 bâtiment de la marine sera mobilisé dans le canal du Mozambique en haute mer pour bloquer la route des Grands Lacs. Le retour à l'ordre passe aussi par les airs et un avion civil multipliera les heures de vol au-dessus de l'île et au large de nos côtes.
Mayotte Place Nette doit enfin permettre la destruction de 1300 bangas. Ce sont ces abris de fortune insalubres dans lesquels vivent de nombreux migrants en situation irrégulière. 5 millions d'euros seront débloqués pour reloger ces familles. A noter enfin que Marie Guévenoux confirme la suppression du droit du sol à Mayotte, qui doit faire l'objet d'un projet de loi constitutionnel présenté fin mai en Conseil des ministres.
Un jeune de 18 ans condamné hier par le tribunal correctionnel de Rennes pour trafic de drogue en Bretagne. Il écope de 18 mois, dont 12 fermes, 18 mois de prison. Il se faisait livrer la cocaïne par colis postal de Guyane. C'est en se déguisant en faux facteur que les gendarmes ont remonté la filière, Sandrine Prioul.
Un petit trafic de province, moderne et efficace dans la cossue banlieue rennaise. Des commandes de cocaïne, de cannabis passées sur Internet, a priori validées via la messagerie cryptée Telegram, et les colis étaient livrés par la poste, tout simplement. Alors, pour remonter la filière, mardi dernier, c'est un douanier déguisé en postier qui livre le colis en provenance de Guyane. 400 grammes de cocaïne à une femme handicapée. Elle réceptionnait en échange d'un peu de cannabis, mais c'est suffisant pour identifier un autre point de livraison d'un gros kilo de cocaïne, cette fois encore chez un homme lourdement handicapé. Sur place, les gendarmes interpellent 2 jeunes de 17 et 18 ans. Le majeur transportait 5 200 euros en liquide, justifie à l'audience que certes, il était en Guyane en décembre dernier, mais pour des vacances entre amis. Il écope de 12 mois de prison ferme, aménageable et de travaux d'intérêt général. Une obligation de travail pour s'insérer, veut espérer son avocat. Lui qui joint ce matin regrette une comparution expéditive, car selon lui, cette simple livraison de colis postaux cachait un trafic de plus grande ampleur.
Comme pour un pilote de F1, mon salaire dépend de mes résultats. C'est la justification avancée par Carlos Tavares. Le patron de Stellantis devrait être gratifié cette année de 36 500 000 euros d'émoluments. Les actionnaires doivent voter sa rémunération tout à l'heure lors de l'Assemblée Générale. Aurélien Fleureau, le directeur général du groupe regroupant Peugeot, Citroën ou Fiat, assume. Il dit respecter la loi.
Oui, exactement. C'est une somme qu'il touchera s'il atteint ses objectifs. Stellantis est désormais le quatrième constructeur mondial, valorisé à près de 80 milliards d'euros en bourse. Une grande partie des bénéfices se font aux États-Unis, où ce niveau de rémunération est plus habituel. En France, ce n'est pas la première fois que cela suscite des critiques. En 2022, Emmanuel Macron avait jugé son salaire choquant et excessif. Cette année, ce sont les très influentes sociétés de conseil aux investisseurs qui trouvent que c'est trop. Carlos Tavares a répondu hier lors d'une visite de l'usine de Trémery en Moselle.
Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. Ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Et il y a 2 ans, une majorité d'actionnaires avait voté contre la validation de cette rémunération, mais sans effet puisqu'il s'agit d'un avis consultatif. Certaines critiques avaient tout de même été prises en compte. Et l'an dernier, le salaire de Carlos Tavares avait été approuvé à 80%. Pas sûr que ce soit le même pourcentage cet après-midi.
La capitale du Danemark plongée dans l'émoi depuis ce matin. Un bâtiment historique est en flammes. L'édifice était en plein travaux. Les flammes ont léché la flèche qui est tombée. Les images nous rappellent évidemment Notre-Dame, c'est la bourse, l'historique bourse danoise qui s'est embrasée ce matin, le monument du XVIIe siècle de Copenhague. Les secours sont encore sur place.
En Australie, la police parle d'actes terroristes.
Au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait 4 blessés dans une église de Sydney, l'auteur des faits, un ado de 16 ans, a été arrêté. 2 jours plus tôt, une autre attaque au couteau avait fait 6 morts, là dans un centre commercial. L'Australie offre d'ailleurs la citoyenneté au héros français de l'attaque, Damien. Il fait partie de 2 compatriotes qui se sont interposés avec l'assaillant, de véritables héros. Salut Emmanuel Macron. C'est presque le début des Jeux Olympiques. Ce midi, la cérémonie d'ouverture, certes, aura lieu dans 101 jours, mais il y a un peu plus d'une heure maintenant, la flamme des Jeux de Paris a été allumée. Elle entame son périple d'Olympie jusqu'à Marseille le 8 mai, puis Paris le 26 juin. Un grand moment d'émotion sur le site antique des Jeux Olympiques où vous vous trouvez pour Europe 1, Bruno Cuaz.
Oui, petite déception puisque l'actrice interprétant la grande prêtresse n'a pas pu allumer la torche avec le soleil et son miroir parabolique comme prévu. La couverture nuageuse a nécessité le plan B avec la flamme allumée hier lors de la répétition. Mais tout ça n'est qu'un détail dans une cérémonie hautement symbolique où la colombe et les rameaux d'olivier ont envoyé un message de paix. L'ambiance était bon enfant avec les 5000 spectateurs assis sur l'herbe qui entoure le stade antique vieux de 2800 ans. La prêtresse a finalement allumé la torche et l'a donnée à Stéphanos Douskos, un rameur grec, avant que Laure Manoudou ne s'en empare pour un premier relais de 400 mètres. Ce relais se poursuivra par une balade de 11 jours en Grèce avant de prendre la mer le 27 avril à bord du trois-mâts français le Belém qui va rejoindre le Pirée avant 12 jours de traversée jusqu'à Marseille.
Au total, donc 68 jours de périple qui s'achèveront bien sûr le 26 juillet à Paris pour le début de la cérémonie des Jeux Olympiques. Il est 13h15 sur Europe 1. Comme chaque jour, le point sur les marchés avec Claire Lemaître de boursier.com. Claire, retour des craintes sur le marché parisien.
Oui, le CAC avait bien résisté hier, mais là, ça se complique. Il perd 1,2%, 7 947 points. Les sujets de crispation sont nombreux. Le risque d'une escalade entre l'Iran et Israël, le prix du pétrole, la politique monétaire. Bref, c'est du rouge pour la plupart des valeurs. La plus forte baisse du CAC est signée par le géant de la sidérurgie ArcelorMittal. Il décroche de plus de 6%, victime d'une note d'analyste. Forte baisse aussi pour l'automobile, moins 3,3% pour Stellantis, moins 3% pour Renault. Le pétrole est sous les 90 dollars, 89,77 le baril de Brent. Et puis sur les autres places européennes, les inquiétudes reprennent le dessus. Francfort et Londres perdent 1,4%, moins 1,2 pour Amsterdam, moins 1,2 à Paris pour le CAC 40, 7 947 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com. On vous retrouve ce soir. La météo, Michael Poteau, on doit s'attendre à un ciel bien capricieux aujourd'hui.
Absolument, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, Thomas. Donc, bah oui, ça ne va pas être folichon cet après-midi avec deux zones d'averse bien pluvieuses, du sud Garonne jusqu'aux Pyrénées orientales, et une perturbation plus active pour l'Île-de-France, la Bourgogne, l'Alsace, la Champagne-Ardenne et le nord de la France, où l'on attend aussi des orages et même des giboulées. Alors ces dégradations devraient s'estomper en approchant de la soirée. De la Bretagne au Massif central, c'est maussade entre éclaircies et averses et le ciel est parfaitement dégagé sur la Méditerranée de Perpignan à Menton et en remontant jusqu'à Grenoble. Il neige dans les Vosges, dans les Alpes et dans les Pyrénées au-dessus de 1200 mètres et le vent va souffler partout sur le territoire de 50 à 80 km par heure. Et puisque c'est un vent du nord, Thomas, à votre avis, quel sera le niveau de température ?
Ça va baisser forcément avec le vent du nord.
Il fait un peu plus frais qu'hier. 10 à Langres et Belfort, 11 à Metz, 12 à Dijon, 14 à Toulouse et Paris, 15 à Fleury-les-Aubrais, 16 à Castelnaudary et Nantes, 18 à Avignon, 19 à Montpellier, 21 à Nîmes et jusqu'à 23 à Bastia.
Merci Michael. Dans un instant, nous verrons comment Israël compte riposter à l'attaque iranienne sans pour autant se mettre à dos la communauté internationale. On en parle ensemble sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, le chroniqueur politique et l'écrivain Paul Melun. Ils nous rejoignent tout de suite dans le studio.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé pour réagir pendant Europe 1 13h avec Thomas Schnell et vos chroniqueurs, Thomas.
Oui, nous recevons au studio Jean-Claude Dacier, chroniqueur politique. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Paul Melun, écrivain avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Les réticences américaines n'ont pas dissuadé Israël. Il y aura bien une riposte après l'attaque iranienne. L'armée israélienne se prépare à répliquer. Alors, la réponse paraissait évidente pour toute la classe politique israélienne. Pourtant, on sent qu'il y a une division sur la forme que doit prendre cette réponse, Paul.
Ah oui, la situation d'Israël est extrêmement compliquée parce que les mollahs iraniens ont mis Benjamin Netanyahou dans un dilemme quasi insoluble. Soit il riposte, et auquel cas il risque l'isolement militaire, l'isolement politique. Les Américains, Joe Biden, il est déjà en train de gérer sa présidentielle et il a un certain nombre d'enjeux internes, notamment son électorat démocrate qui est assez fragmenté sur la question, qui ne va pas bouger d'une oreille. Ça, c'est la première option, donc isolement militaire pour Benjamin Netanyahou. Ou alors, il va effectivement à la désescalade, et aller à la désescalade, ça peut sonner comme un aveu de faiblesse, et on va dire, eh bien, ça sonne comme une défaite, et Israël, face à cette attaque de l'Iran, eh bien, baisse la garde. Donc, dans les deux cas, si vous voulez, il y a beaucoup à perdre. Mais si Israël va à la riposte, alors bien sûr, il faut voir de quelle façon. Je n'imagine pas une riposte, si vous voulez, de la même ampleur et de la même nature que l'attaque de l'Iran, à savoir 300 et quelques drones et missiles balancés sur le territoire iranien. On peut imaginer des attaques ciblées, etc. Mais nous entrerions dans un engrenage tellement, si vous voulez, terrible, qu'on ne sait pas quelle peut être l'issue d'un tel engrenage. Et par conséquent, les pays arabes de la zone qui sont des alliés de l'Occident, je pense à l'Arabie Saoudite, au Koweït, à la Jordanie, ne suivront pas, naturellement, Israël dans une telle riposte. De la même manière, les puissances occidentales ne suivront pas Israël dans cette riposte. Donc, l'isolement serait total et je pense que les intérêts israéliens ne sont pas d'aller à la riposte.
C'est ça, Jean-Claude Dacier, la pression internationale est telle que la marge de manœuvre d'Israël est réduite ?
Il y a de ça. Et je pense que Netanyahou et ses collaborateurs du gouvernement extrémistes quand même pour le ministre de la Défense et quelques autres, doivent hésiter sur la riposte, oui, sans doute, mais laquelle ? La situation de Netanyahou est compliquée politiquement. Il a besoin, on ose à peine le dire, mais il a besoin de la guerre pour rester au pouvoir. Il a besoin de prolonger le conflit pour rester au pouvoir. Si la guerre devait s'interrompre demain, ce qui n'est probablement pas le cas, on ne sait pas ce qu'il adviendrait politiquement de lui. Il a aussi besoin de l'Amérique. Et Biden lui a très clairement fait savoir qu'il était hors de question de riposter, de riposter trop fermement, de prendre une décision qui d'escalade. Après, on ne sait plus très bien où ça va. Moi, Netanyahou, je lui ai rendu hommage, je crois que c'était avant-hier, parce que je crois que son opération Iran a magnifiquement bien marché.
Oui.
Bon, il a bombardé une des succursales
de l'ambassade iranien,
le consulat iranien à Damas. Et il savait quelle serait la suite. Il ne pouvait pas se passer autrement qu'une riposte de l'Iran spectaculaire. Mais l'Iran a complètement échoué. Alors, on dit qu'ils ont même prévenu les Américains, que tout le monde savait, etc. Mais néanmoins, ils ont balancé 300, 250 ou 300 à la fois drones et missiles. Et il ne s'est rien passé. Il y en a la moitié d'un qui a dû tomber sur le territoire israélien. Donc c'est un vrai succès pour Netanyahou. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les Européens l'appellent pour lui dire
pour le
calmer le jeu.
Pour le dissuader.
Sa tentation est sans doute aussi de geler la situation à Gaza, parce que c'est ça aussi l'objet de l'opération, Iran. Il gèle les exigences et les incertitudes de la situation à Gaza. Et puis il détourne l'attention, il éclaire plein feu, il regarde, il essaie d'enclencher un mouvement compliqué en Iran.
Justement, quelles sont les réponses possibles de Israël à l'Iran? On va écouter les trois scénarios envisagés par le spécialiste, le général Jean-Paul Paloméros. Les trois réponses possibles à l'Iran.
Une première riposte qui serait des attaques cyber. Pour désorganiser en quelque sorte l'Iran. Ça a été fait par le passé. J'y crois pas trop, ce n'est pas assez visible, ce n'est pas assez concret pour la population israélienne. Deuxième élément, ce serait les frappes contre le Hezbollah, allié de l'Iran. Ça, c'est plausible parce que c'est directement lié à l'Iran sans avoir les répercussions d'une attaque directe sur l'Iran. Troisième scénario, c'est évidemment d'aller frapper en Iran. Là, il y a des sous-scénarios, soit des bases qui abritent les moyens qui ont été envoyés contre Israël, ou alors là, ça serait vraiment l'escalade la plus forte, ça serait des attaques contre des sites nucléaires iraniens. C'est pas totalement impensable.
Mais on voit quand même que les Israéliens ont le choix.
Bien sûr, le troisième scénario, il est quand même
L'Iran est à 3000 kilomètres sans l'Amérique. Israël ne peut pas attaquer l'Iran seul, c'est impossible.
Parce qu'ils ont besoin des Américains, notamment pour protéger leur front avec le Liban, enfin avec le Hezbollah.
Et puis les Iraniens ont enterré leur dispositif nucléaire. Tout est enterré, très profondément.
Bien sûr. Jean-Claude Assis, il n'y a pas d'armes qui pourraient parvenir justement à atteindre ces cibles nucléaires enterrées.
Je ne suis pas un expert, mais je ne le crois pas. Et puis franchement, il faut non seulement. C'est une énorme opération. Et puis je ne suis pas sûr que politiquement, Netanyahou soit prêt à franchir le pas. Il a envie de se faire l'Iran. C'est l'incertitude pour lui et c'est politiquement tout bénéfice pour lui. Sauf que ce n'est pas simple à faire et qu'il est déjà engagé dans une situation très compliquée à Gaza. Et je ne parle pas de la Cisjordanie.
Il ne peut peut-être pas ouvrir de nouveaux fronts, effectivement, avec ce qui se passe à Gaza. Mais bon, on se rappelle qu'il n'avait pas attaqué le 8 octobre. Il avait pris son temps. Et là, le chef d'état-major de l'armée israélienne dit on se prépare.
Ils ont tout intérêt à prendre leur temps. On a bien posé, effectivement, toute la complexité de la situation. Il est difficile pour Benjamin Netanyahou de jouer les va-t-en-guerre et de dire comme ça, on va aller frapper des cibles stratégiques sur le territoire iranien, sachant que ça dégarnirait un certain nombre d'autres fronts, à commencer par celui avec le Hezbollah, qui, sans l'appui stratégique et militaire des Américains, est une opération qui est rendue impossible. Ensuite, sur la victoire du Dôme de Fer dont parlait Jean-Claude, je suis d'accord, c'est une prouesse extraordinaire, c'est 280 avions de combat, Israël, donc 100 de plus que la France, important de le noter là aussi, donc une défense aérienne de très haut niveau, la coalition qui a aidé. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'Iran n'a pas envoyé probablement ses meilleures armes. Un certain nombre de spécialistes disaient aujourd'hui et hier que l'Iran en avait encore beaucoup sous la pédale, si je puis dire, et qu'ils avaient en arrière un certain nombre d'armes beaucoup plus performantes que les missiles ou les drones à 2000 $ qu'ils ont envoyés, qui, pour avoir été interceptés, ont dû être interceptés par des missiles de très haute technologie qui, eux, ont coûté extrêmement cher. Donc, les Iraniens jouent avec les limites, testent leur capacité de défense et œuvrent principalement à intimider l'adversaire et à montrer à l'Occident que c'est une grande puissance militaire qui peut être extrêmement déstabilisante pour la zone.
Certains experts pensent que, en fait, l'Iran a gesticulé.
Jean-Claude Dacier, on prolonge le débat, ce sera juste après le rappel des titres. On prolonge le débat avec les conséquences de la crise entre Israël et Iran en France. La France insoumise clive à nouveau avec ce meeting organisé à Lille qui est dans le viseur notamment du président de la région des Hauts-de-France. On voit ça juste après ça sur Europe 1.
Thomas Schnell est avec vous pour Europe 1 13h et vous pouvez intervenir au 01 80 20 39 21. A tout de suite.
Europe 1, le journal permanent.
13h32 sur Europe 1, 1700 gendarmes, policiers et militaires mobilisés. Opération Place Nette lancée à Mayotte ce matin. Objectif, lutter contre l'insécurité, l'immigration irrégulière et l'habitat insalubre. L'opération doit durer 11 semaines. Les nouvelles menaces de Téhéran alors qu'Israël promet la riposte à l'Iran. Le président iranien Ebrahim Raisi déclare que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère, étendue et douloureuse de son pays. Le cabinet de guerre israélien est réuni depuis ce matin pour décider de la riposte à donner après l'attaque massive subie dans la nuit de samedi à dimanche. Emmanuel Macron salue le rôle de deux Français, de véritables héros. Silas Despros et Damien Guéraud se sont interposés lors de l'attaque au couteau qui a fait 6 morts samedi dans un centre commercial de Sydney en Australie. Damien Guéraud, qui l'a héroïquement repoussé à l'aide d'un poteau dans un escalator, se verra offrir la citoyenneté australienne. Première relayeuse française à s'emparer de la flamme olympique, c'est la nageuse Laure Manaudou. Relais lancé ce matin depuis le site antique d'Olympie où la flamme a été allumée. Ils seront 10 000 relayeurs à se passer la flamme avant son arrivée à Paris le 26 juillet prochain pour l'ouverture des JO. La suite des quarts de finale retour de Ligue des Champions, le PSG est à Barcelone ce soir. Les Parisiens se sont inclinés 3-2 à l'aller. Autre quart de finale, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. Coup d'envoi de ces deux matchs à 21h.
La suite d'Europe 1 13h, il est 13h33 avec vous Thomas Schnell et vos chroniqueurs.
Après les propos hostiles à Israël, à Montpellier, la France insoumise clive. À nouveau, à Lille, un meeting organisé par une association pro-palestinienne à l'université et dans le viseur du président de la région, Xavier Bertrand, mais également de députés du Rassemblement National et de Renaissance. Faut-il, Jean-Claude Dacier, Paul Melun, que les autorités, la police, les autorités judiciaires interviennent pour interdire l'événement ?
Moi, en règle générale, si vous voulez, j'ai toujours une vision très libérale de l'université. Ouais, c'est-à-dire que tout ce qui doit s'y mener, même ce avec le quoi je ne serais pas d'accord, vous savez, c'est le principe voltairien, doit pouvoir s'exprimer. Ce principe-là posé, faisons d'abord une première remarque, c'est que la gauche, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon, n'adopte pas ce projet-là quand il s'agit de personnalités qui viennent de l'autre côté du spectre politique. C'est-à-dire que quand, par exemple, Sylviane Agacinski veut faire une conférence à l'université de Bordeaux, elle en est chassée. Lorsque Geoffroy Lejeune avait voulu faire une conférence, je crois, de mémoire à Sciences Po Paris, il en avait été chassé. Alain Finkielkraut, bon, la liste est très longue. Donc, observons d'abord que la gauche est très prompte, cette gauche-là, en tout cas cette extrême gauche-là, à faire interdire les conférences des autres, mais que là, elle crie à l'illibéralisme sur la sienne. Moi, je pense que l'interdiction n'est pas forcément la solution. Par contre, je partage l'indignation de la députée Spilbou ou du président de la région Xavier Bertrand et tous ceux qui sont insurgés de cette conférence, parce que le fond de cette conférence, en revanche, pose extrêmement question, extrêmement problématique et reflète une convergence entre un monde universitaire qui est de plus en plus, trouble vis-à-vis du Hamas, trouble vis-à-vis de l'islam politique et une France insoumise qui est en roue libre depuis un certain nombre de mois et qui tente de draguer un électorat musulman en présageant que cet électorat musulman serait pro-Hamas, ce qui est d'ailleurs une erreur et un amalgame commis par la France insoumise. Donc ce cocktail-là, effectivement, ne devrait pas théoriquement pouvoir, avoir table ouverte à l'université et les étudiants devraient le boycotter. Le problème, c'est que c'est très populaire ce discours-là à l'université. Donc je pense que si une telle conférence pouvait se tenir, elle aurait probablement un grand succès parce que l'université est largement, et les étudiants des universités de sciences humaines françaises sont largement irrigués, inondés par l'idéologie islamo-gauchiste que prône Jean-Luc Mélenchon. Donc tout cela est extrêmement révélateur et à mon sens assez inquiétant de l'état intellectuel et culturel de l'université aujourd'hui.
Jean-Claude Dacier, ouais.
Un mot, je suis comme Paul, je pense que les interdictions... Je préférerais écouter ce qui va... Que là, d'abord le meeting se tienne et puis qu'on écoute ce qui va se dire. Parce qu'il y a quand même une ligne rouge que chacun connaît, c'est l'antisémitisme.
Absolument.
Être pro-palestinien... Et jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un délit. Donc on peut parfaitement réunir un certain nombre de gens autour d'un thème qui est la défense de la Cisjordanie, la défense de Gaza et des Palestiniens qui s'y trouvent. Mais si à l'écoute des discours qui vont se succéder, on tombe dans un certain racisme antisémite, là, absolument, évidemment, la loi est claire, c'est évidemment un délit. Quant aux demandes d'interdiction, j'y reviens un peu en boucle, mais quand on demande d'interdiction ou autre, il ne faut pas non plus se laisser abuser par la bagarre qui est politique.
Ces manières de jeter...
Voilà, politique locale sur les perspectives de la bagarre pour la mairie de Lille. sont déjà largement ouvertes pour les prochaines municipales dans 2 ans. Mais bon, pour le reste, je ne vais pas insister et accabler ce pauvre Mélenchon qui baisse plutôt dans les sondages alors que d'autres progressent. Il est quoi, Mélenchon ? Antisémite, c'est dur quand même. Je ne peux pas me résoudre à le taxer de ce délit. En revanche, il est clair qu'il a une vue électoraliste classique, c'est-à-dire qu'il est à la pêche de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de voix musulmanes dans la région parisienne et ailleurs pour essayer de faire le score le meilleur possible, croit-il, à la présidentielle, où sans aucun doute, il sera candidat. On est quand même un peu dans la tambouille politicienne. Hein.
Alors, est-ce que c'est une stratégie payante, justement, pour Jean-Luc Mélenchon, d'aller s'adresser à cet électorat-là? Alors, on ne va pas enjamber les européennes et se projeter directement sur les municipales. On va se concentrer sur le 9 juin. Vous avez vu ces sondages. Vous avez vu Glucksmann, le candidat place publique Parti Socialiste, qui est en troisième position, qui grappille des voix, justement, à la France Insoumise, qui ne parvient pas à dépasser les 8%, 9%, selon les différents sondages. Raphaël Glucksmann, qui, lui, est au-delà des 10%. C'est cette gauche-là qui va peut-être rassembler les déçus du macronisme et les déçus de la France Insoumise.
Mais c'est toute sa force à Raphaël Glucksmann. C'est-à-dire que il avait un espace politique, comme on dit en stratégie politique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a plutôt penché sur sa droite ces derniers mois. Et il y a eu la loi immigration qui a causé une fracture au sein de la majorité présidentielle avec des gens comme Clément Beaune, comme Sacha Houlier qui ont commencé à faire valoir leurs désaccords. Avant, il y avait eu la réforme des retraites. Et dans le même temps, à gauche, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui, par sa radicalité, et c'était ce que rappelait fort justement Jean-Claude, par sa radicalité notamment sur l'islam et en voulant aller chercher l'électorat musulman, est sur une logique qui, à mon avis, le perdra et qui l'emmène à la radicalisation. Donc il y a un espace pour une gauche social-démocrate, qui prend le parti de l'Ukraine, comme le fait Raphaël Glucksmann, qui n'est pas sur les positions extrémistes de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit israélo-palestinien, qui n'est pas coupable, on peut avoir des désaccords avec Raphaël Glucksmann, mais qui n'est pas coupable d'intelligence politique ou d'accointance culturelle ou intellectuelle avec l'islam politique. Donc, si vous voulez, il avait un espace. Et en plus de cela, c'est un candidat dont on disait à l'époque qu'il était issu de la société civile, c'est vrai, qui a une certaine aisance médiatique et intellectuelle, qui a la parole facile, pourrait-on dire, et face à lui, Manon Aubry ou Marie Toussaint font un peu pâle figure.
Jean-Claude Assis, il apparaît moins sectaire que Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann.
C'est pas difficile.
Sans doute. Pourquoi ? Mais la tâche est relativement aisée, parce que, je vais vous dire d'abord, c'est que les élections européennes à venir seront en réalité des élections françaises.
Bien sûr.
C'est assez désespérant,
comme
sans doute.
Fois.
C'est vrai que c'est un peu la vérité de ce type d'élection, mais on vote d'abord, ça va être un référendum anti-Macron, pour beaucoup, et c'est pour ça qu'Ayer aura bien du mal, à mon avis, à surnager dans cette difficulté politique.
La candidate macroniste.
Alors Glucksmann, je ne sais pas trop, à Strasbourg, il défend beaucoup l'écologie, il est pour la taxation des super-riches, il est grosso modo... il enterre la NUPES, clairement, parce qu'il est loin désormais de la France insoumise. En même temps, bon, je ne sais pas dans quel terme il est avec Cazeneuve, avec François Hollande et quelques autres. C'est un peu un renouveau d'une social-démocratie qui se serait un peu rafraîchi les idées.
Irréconciliable avec les autres gauches.
Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, mais enfin, je le risque.
Non, mais en tout cas, irréconciliable avec les autres gauches, c'est vrai. Les attaques en ce moment les plus rudes de la part de la France insoumise vont vers Raphaël Glucksmann
hein,
et vice-versa. Donc, ce serait la vieille thèse de Manuel Valls sur les deux gauches irréconciliables qui seraient en train de se réhabiliter. Après, la social-démocratie, elle est quand même fracturée parce qu'effectivement, certains amis et proches de Bernard Cazeneuve, que tu citais, Jean-Claude, ont plutôt rallier la liste du Parti radical de gauche de Guillaume Lacroix et essayer de faire des dissidences et ne sont pas vraiment sur une ligne Glucksmann. Et même au sein du Parti socialiste, je doute qu'Olivier Faure voit seulement d'un bon œil la réussite de Glucksmann qui peut être après encombrant, notamment pour l'élection présidentielle. Donc il y a fort à parier que l'effet Glucksmann, s'il est trop important, soit plus un facteur de déstabilisation de la gauche qu'un facteur qui après pourrait être une locomotive pour la gauche comme a pu l'être Mélenchon
au législatif. Vont s'y mettre.
Donc,
parce qu'eux aussi ont vu les sondages de Glucksmann légèrement progresser. Les écolos commencent à cogner fort Sur Glucksmann.
Sur Glucksmann qui siphonne la France insoumise, mais qui agrège aussi les voix des déçus du macronisme.
Oui.
Et
oui,
c'est le danger pour Valérie Ayé, oui, c'est de se retrouver justement en peine avec les électeurs qui pourraient se tourner vers Raphaël Glucksmann.
Il attire Raphaël Glucksmann un électorat de CSP+, comme disent les sociologues, c'est-à-dire des cadres de profession intellectuelle supérieure. Voilà, dans des grandes villes principalement. Oui. On va pas voter Glucksmann au fin fond de la Lozère, ça paraît compliqué, quoi.
Non.
C'est-à-dire qu'il est le candidat. Si j'étais un peu taquin, je dirais que c'est quand même un peu le candidat des bobos, Raphaël Glucksmann. Donc si vous voulez, et qui représente assez bien ce courant-là, y compris dans ses prises de position internationales, qui sont souvent d'ailleurs intéressantes sur les Ouïghours et tout ça. Il a eu des combats que je trouve assez nobles, mais qui sont des combats qui parlent davantage à des habitants des beaux quartiers qui n'ont pas vraiment de problèmes financiers qu'à des gens qui sont inquiets pour leur pouvoir d'achat, pour l'insécurité, pour les effets de l'immigration, etc. Qui, eux, vont plutôt s'agréger effectivement sur la candidate du Rassemblement National, peut-être sur d'autres candidats de gauche. Le jeune candidat communiste Léon de Fontaine de Fabien Roussel est un bon candidat. C'est un garçon que je trouve assez estimable intellectuellement. Donc, il y a différentes positions. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Jean-Luc Mélenchon, pour redire ce que nous disions tout à l'heure, est sur une ligne qui le conduira à sa perte. J'entendais même qu'une liste Free Palestine est en train de se lancer en Europe. Ah. Donc il sera dépassé sur sa gauche, c'est même pas sur sa gauche,
n'oublions
mais
pas,
sur son islam.
N'oublions pas qu'il ne s'agit que des européennes, que c'est un certain électorat qui va se déplacer, assez militant, assez politisé également. Est-ce que cela va peut-être augurer de 2027? C'est difficile à dire. On se rappelle du score des écolos avant la présidentielle 2022. Il n'avait pas du tout transformé l'essai.
Il n'y a pas de lien, semble-t-il, entre les résultats que nous attendrons des élections européennes et puis la prochaine présidentielle qui se déroulera dans un tout autre contexte avec d'autres leaders. Ce qui est assez désespérant, notamment pour le président de la République, qui est un pro-européen militant, ce qui est assez désespérant, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a à peu près un électeur sur deux qui a l'intention de se déplacer pour aller voter. Et que les thèmes européens, encore une fois, je le répète, on va voter français. Et ça va être pour l'essentiel un référendum anti-Macron. Pour d'autres, ça va être Glucksmann avec son score. On verra bien ce qu'il sera. Mais va évidemment fleurir sur les dégâts, sur la gauche en miettes telle qu'on la connaît. Et Valérie Ayé aura probablement du mal à s'imposer dans ce contexte-là. C'est une élection nationale, alors que ça devrait être, mais ça, c'est vrai, tu as raison, jamais été, une élection où on prenne en compte un peu l'avenir du continent européen, qui est quand même très lourdement questionné aujourd'hui, notamment sur les problèmes de défense, quand on regarde l'Ukraine, quand on regarde le Proche-Orient. Que pèsons-nous? Pas grand-chose.
Jean-Claude Dacier, Paul Melun, vous restez avec nous. Justement, qu'est-ce qu'on pèse face à la grande puissance qui menace l'Europe? La Russie, un carton d'invitation, va être envoyé à Moscou pour les commémorations des 80 ans du débarquement le 6 juin en Normandie. On voit ça dans un instant.
Et vous pouvez toujours nous appeler et réagir au 01 80 20 39 21. Thomas Schnell et Europe 1 13h reviennent dans un instant. De 13h à 14h, c'est Europe 1 13h avec Thomas Schnell et vos chroniqueurs de ce 16 avril, Thomas.
Oui, nous sommes toujours avec Jean-Claude Dacier et Paul Melun. La Russie invitée aux commémorations du 80e débarquement. Du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, Emmanuel Macron va envoyer un carton à Moscou pour le 6 juin et convier la Fédération soviétique la Fédération russe lors de ces commémorations. Est-ce qu'on peut imaginer un représentant du Royaume-Uni, Rishi Sunak, Joe Biden, Emmanuel Macron et à côté, Poutine, à côté, un représentant de la Fédération russe?
En l'état actuel des choses, c'est difficilement imaginable au plan communicationnel, au plan diplomatique. Cependant, je trouve l'intention de la France tout à fait justifiée, eu égard le rôle prépondérant qu'a eu la Russie dans la libération. C'est-à-dire qu'il y a, malgré les dirigeants, malgré les passages des différents dirigeants, leur aspect autocratique, tout ce que l'on voudra, leur rapport contrarié aux droits de l'homme, convenons de tout ça, évidemment, concernant Poutine, il y a, malgré tout, une permanence de l'histoire, une continuité qui, je pense, qu'il est bon de conserver. Lorsque le général de Gaulle gardait des relations diplomatiques, comme d'ailleurs tous ses successeurs, avec un certain nombre de dirigeants du bloc soviétique, et de dirigeants, et on peut penser jusqu'en 1953 par exemple à Staline, si vous voulez, c'était pas non plus un enfant de cœur par rapport à Poutine. Et pour autant, on avait des liens diplomatiques avec des gens qui, pendant des décennies, ont envoyé des centaines d'opposants politiques au goulag, les ont fait travailler, les ont torturés, voire les ont tués. Donc la réelle politique, c'est aussi ça. C'est-à-dire que par-delà, comment dirais-je, les atrocités qui peuvent être commises par des dirigeants de par-delà nos frontières, il y a une responsabilité devant l'histoire à dire, eh bien là, il y avait eu une alliance, cette alliance a permis de nous libérer du joug du nazisme, dès lors, la présence est logique, elle est cohérente. Nous n'invitons pas Poutine parce qu'il est notre ami politique et parce que nous cautionnons ce qu'il commette en Ukraine, nous l'invitons parce qu'il représente une nation et que cette nation, ce peuple, a été à nos côtés dans des moments difficiles. C'est comme cela, je pense, qu'il faut envisager les choses. Et malheureusement, ou pas, d'ailleurs, on le déplore ou pas, si on faisait de la géopolitique qu'avec des gens qui étaient des démocraties libérales très soucieuses des droits des minorités très soucieuses de la démocratie, ça se saurait. Et on parlerait peut-être avec l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, et l'Espagne. On aurait vite fait le tour.
Tu aurais raison,
Jean-Claude Dacier.
Tu aurais raison si l'attitude un peu surpolitique de Poutine avait été hostile au plan des idées, hostile au plan des concepts défendus en Occident, etc., etc. Là, oui, je te donnerais pleinement raison. On ne voit pas pourquoi le président Poutine ne serait pas présent à ces cérémonies. Bon, je trouve que l'invitation de la France est normale, mais je n'arrive pas une seconde à imaginer Poutine aux côtés des dirigeants occidentaux à l'occasion de d'un anniversaire important, 80 ans, c'est vrai. Mais je ne pense pas une seconde. Je pense que Poutine est tricard, si je ose employer cette formule un peu vulgaire, est tricard dans les pays occidentaux pour un bout de temps.
On verra.
Et il est dans son discours totalement hostile à ce que nous représentons, même si c'est opportuniste pour beaucoup de points. Il est quand même dans une guerre qu'on qualifie à juste raison de guerre d'agression de l'Ukraine.
Oui.
Je ne vois pas ce qu'il viendrait faire en Normandie le 6 juin.
Le 6 juin, mais c'est indéniable que la Russie a participé à la victoire.
Ça, c'est indéniable.
Lors de la Seconde Guerre mondiale.
Écoutez, les faits vont nous départager. Moi, je ne crois pas une seconde à son arrivée.
Un émissaire éventuellement pourrait venir. On verra.
Oui,
en tout cas.
Oui. Alors un émissaire, oui, peut-être.
L'ambassadeur de Russie en France, par exemple, pourrait être présent. On pourrait imaginer qu'un ambassadeur, l'ambassadeur de Russie en France, par exemple, soit convié, soit présent. Oui. Qu'il y ait une représentation diplomatique de la Russie.
Je suis d'accord avec ça.
Sans que Poutine sorte du Kremlin.
Alors nous sommes d'accord.
On verra la réponse que Moscou apportera à ce carton d'invitation. C'était une information que vous révèle Europe 1. La France, donc, qui s'apprête à rendre publique cette décision d'inviter la Russie aux 80 ans de débarquement en France. On en vient à ce projet de loi que le gouvernement prépare en ce moment pour durcir les sanctions contre les parents de jeunes délinquants. C'est la traduction du fameux « Tenez vos gosses » d'Éric Dupond-Moretti lors des émeutes l'année dernière. Le texte prévoit deux volets. D'abord, restaurer la parentalité, c'est-à-dire que les peines encourues par les parents qui manqueraient à leur devoir parental passeraient de 2 ans de prison à 3 ans et de 30 000 à 45 000 euros d'amende. Et puis, il y aurait également du travail d'intérêt général possible. Sanctionner plus durement les parents, c'est une façon de lutter contre la violence des jeunes, Paul Melun ?
Je ne suis pas sûr de l'efficacité de la mesure, pour tout vous dire. Je pense que... Alors, par exemple, là, me vient en tête un exemple de sanction des parents. C'était il y a quelques jours aux États-Unis. Des parents ont été sanctionnés de 10 ans, tenez-vous bien, de 10 ans d'emprisonnement suite à des crimes et délits commis par leurs enfants. Pour autant, aux États-Unis, la criminalité, y compris la criminalité juvénile, progresse sans relâche depuis plusieurs années. Donc là, nous avons un exemple international sur lequel la sanction des parents, manifestement, ne fonctionne que partiellement. Ensuite, en France, un certain nombre de parents, lorsque leurs enfants tombent dans la délinquance ou dans l'hyperviolence, ne sont soit pas au courant, soit complètement dépassés, et ça se passe parfois dans des familles monoparentales, dans des quartiers difficiles, parfois... Ils sont complices et auquel cas on peut les incriminer sur le chef de leur complicité, effectivement, des crimes et délits que pourraient commettre leurs enfants. Moi, je pense que c'est plus sur la justice des mineurs qu'il faut agir.
Absolument.
Qu'on peut réfléchir sur les maisons de correction fermées ou semi-fermées pour un certain nombre de jeunes qui commettent des crimes et délits très graves, alors même qu'ils sont mineurs. On ne peut pas imaginer, vous souvenez de cette dame, c'était Angèle, je crois, à Cannes, qui a été attaquée, une dame très âgée, qui a été attaquée dans le dos par des mineurs. Ils ont écopé de rien du tout, de stage de citoyenneté ou de PKD dans ce genre-là. Et c'est et David Lisnard qui nous a dit qu'aujourd'hui, ces jeunes-là étaient dans un point de deal à Cannes. Donc là, il y a une impunité qui est totale et qu'il convient de régler d'une façon beaucoup plus dure, beaucoup plus sévère. Mais ça, c'est plutôt la rapidité de la peine, une peine exemplaire, rapide, efficace, plutôt sur le modèle de ce qui se fait, par exemple, au Pays-Bas.
Jean-Claude, juste avant de vous entendre, on va accueillir un de nos auditeurs qui est avec nous en direct. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors, sanctionner plus durement les parents des jeunes délinquants, vous, c'est une mesure qui va dans le bon sens ?
Toute mesure peut aller dans mon sens, mais je suis un peu d'accord avec vos interlocuteurs dans le sens où j'ai peur, malheureusement, que ce ne soit pas suffisant. Moi, je voudrais aborder deux points. Rappelez-vous, lors des émeutes, il y a une quarantaine de jeunes qui ont été jugés en comparution immédiate. Il y avait deux pères seulement. Il n'y avait que des mères. Deuxième chose... Je reviens à la justice, effectivement. C'est un peu tard. Je pense que la psyché d'un enfant, elle se fait entre un mélange de 3 et 5 ans, on le sait. Et pardonnez-moi, mais si la justice avait fait son travail, pardonnez-moi de revenir sur ce sujet délicat, mais le petit Naël serait en vie et la personne qui a tiré sur Naël serait peut-être, n'aurait pas tous les problèmes qu'elle a aujourd'hui. Si la justice avait fait le travail de ce petit Naël qui avait déjà des affaires en cours, on n'en serait pas là. Donc il faut revenir à la base, revenir à la base éducative, tout simplement. Je pense que quand on passe son permis, quand on a une voiture, on demande de passer un permis de conduire. Je pense qu'il faut trouver des solutions au niveau des parents. Il faut apprendre simplement à beaucoup de mères seules, ou il faut inciter, ou je ne sais pas, les former à faire quelque chose là-dessus. Il faut revenir à la base. La sanction, oui, mais on a oublié les bases éducatives.
Donc ça se passe plutôt, c'est ça Christophe que vous me dites, Jean-Claude Dacier, vous êtes d'accord, il faut peut-être plus d'éducation au préalable, plus d'accompagnement. La sanction, c'est déjà trop tard.
Personne ne peut être contre l'idée de renforcer les moyens qui aideraient ces familles en difficulté. Que le mari soit parti vers d'autres horizons, que la maman ne réussisse pas à maîtriser ses enfants qui sont de plus en plus, libres. Et en même temps, ils sont à peine mineurs. C'est une évidence. Je veux dire, mais je crois que ça ne correspond pas ou que ça ne correspond plus à la situation que nous connaissons aujourd'hui, où nous avons des mineurs, vrais ou faux, qui font la loi, qui sont la plupart du temps seuls sur le terrain et agissent en bande, où nous avons des ados qui ont entre 17 ou 18 ans et qui se comportent avec une violence absolument incroyable. C'est ça qu'il faut essayer de... La justice a un vrai problème avec les mineurs et un vrai problème avec les jeunes gens.
Merci
c'est de ça
Jean-Claude
qu'il faut
Dacier,
qu'elle s'occupe.
Merci Paul Melun, merci à Christophe qui était avec nous par téléphone d'avoir passé cette heure ensemble. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est ainsi que se termine notre émission, Michael.
À demain Thomas pour Europe 1 13h et vous pouvez réécouter Europe 1 13h avec Thomas Schnell sur le site et l'application Europe 1. Et parmi les autres rendez-vous de notre station, il est la grande interview Europe 1 CNews de Sonia Mabrouk. Des entretiens sans concession à écouter du lundi au jeudi à 8h10 pendant Europe 1 Matin. Et son invité demain, c'est Dominique Régnier, politologue et directeur général de la Fondapol. La grande interview Europe 1 CNews, c'est demain à 8h10 en direct. Dans quelques instants, le journal de 14h, suivi d'Ondat raconte sur Europe 1.